Vous êtes ancien Premier ministre du Sénégal, maire de Thiès et candidat à l'élection présidentielle de 2012. Pour vous interroger dans cette émission RFM, TFM, Alassane Samba Diop, Barkaba et Mamoudi Brakan, nous aborderons au cours de cette émission plusieurs thèmes relatifs à l'actualité nationale et internationale.
Monsieur le Premier ministre, merci d'accepter notre invitation. Monsieur Maître Abdoulaye, le président de la République a fait un discours le 14 juillet. Quelle analyse faites-vous de ce discours?
Je vous remercie Alassane. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations à vos téléspectateurs, auditeurs et lecteurs. Et à travers eux, à tous mes compatriotes. Alassane, je suis peiné, profondément peiné et attristé par le discours du chef de l'État et ou du secrétaire général national du PDS. Pour qu'un discours soit beau, il faut qu'il le soit en style et en sens. Or, dans la forme comme dans le fond, ce discours du président de la République et ou du secrétaire général du PDS a déçu les populations et a déçu toutes les attentes. J'aurais souhaité que le président de la République, à un moment aussi solennel, aussi sérieux de la vie nationale et de sa carrière politique qui se termine, et puis s'élever à la dignité de sa fonction et de sa charge. Parce qu'après s'être paré de tous les attributs de l'État et du pouvoir, entouré de toutes nos forces de sécurité, il a tenu un meeting de parti politique. Réduire nos forces de sécurité à une sorte de milice politique ou de service d'ordre d'un parti politique n'est pas digne de la charge qui est la sienne. Vous m'avez déjà entendu dire que je lui souhaitais la sagesse d'un Mandela ou d'un Lula et non la cécité d'un Ben Ali, d'un Moubarak ou d'un Tandja. Dans le fond, la seule chose qui était attendue, c'était que le président de la République honore son serment de respecter la constitution du Sénégal, de respecter les lois, de respecter le calendrier républicain et de ne faire que cela. De s'adresser aux populations en leur disant des choses concrètes sur la prise en charge de leurs préoccupations du moment, dont les plus importantes sont l'accès à une fourniture régulière d'électricité et à un habitat non pollué par des inondations, à l'emploi des jeunes. Au lieu de cela, il aligne une série de promesses et conclut en disant: ne croyez surtout pas en mes promesses. Je n'honore pas mes engagements. Cela m'a profondément attristé. D'entendre le président de la République dire « Wah, wahet », cela m'a profondément peiné. Cela m'a peiné comme a dû peiner le maréchal Pétain, le général de Gaulle. Le général de Gaulle a dû être peiné puisqu'il a été accueilli à Arras comme jeune lieutenant par Pétain, qui a été le héros de Verdun, mais qui, naufragé de l'âge, a déshonoré sa fonction et sa nation à Vichy. Je fais cette référence puisque le président a choisi de parler un 14 juillet et je pense que l'histoire de France lui parlera davantage qu'autre chose.
Monsieur le Premier ministre, le 14 juillet, on vous a plutôt vu à la résidence de l'ambassadeur de France, plutôt qu'avec le président Abdoulaye Wade, qui tenait discours devant les élus du pouvoir. Pourquoi ce choix de votre part?
Parce que il faut honorer ses amis, il faut honorer ses partenaires. La France est le premier partenaire du Sénégal en matière d'appui budgétaire, en matière d'investissement, en matière d'accord de défense. Je pense que le jour du 14 juillet étant le jour de leur fête nationale, il était de notre devoir à tous de ne pas cannibaliser cet événement, de ne pas le perturber, de ne pas le banaliser par une sortie qui était aussi attendue par le peuple sénégalais. Et il y avait de meilleures dates pour affirmer justement notre souveraineté, pour affirmer notre indépendance, pour le président de la République de s'adresser aux Sénégalais. Surtout qu'à l'arrivée, c'est un secrétaire général de parti qui tenait meeting en se parant des attributs de la charge présidentielle. J'ai préféré aller honorer donc nos amis français. Mais je n'avais rien à faire aux côtés du président de la République. Parce que je l'ai dit depuis janvier au Magal de Touba, je l'ai réaffirmé récemment en recevant le G6, je n'ai plus eu aucun contact, ni direct ni indirect, avec lui. J'ai fini de lui parler, je lui ai tout dit sous toutes les formes et je constate que son cœur et ses oreilles sont scellés et un voile épais lui couvre la vue. Donc je ne juge pas utile d'aller dialoguer avec lui, d'aller l'écouter ou d'aller lui parler.
Voire de plus jamais.
J'espère qu'il nous reste un rendez-vous le jour de la passation de service.
Monsieur le Premier ministre, à l'entame de votre propos, parlant du discours du chef de l'État qu'il a tenu à l'hôtel des Almadies, vous avez évoqué la nécessité du respect de la parole donnée et du respect du calendrier républicain.
Or,
vous-même, n'avez-vous pas l'impression que vous avez un peu ouvert la boîte de Pandore en évoquant la possibilité de report de la présidentielle de 2012 pour 2014?
Non. Je n'ai jamais rien fait de tel. Ce que j'ai dit, après avoir consulté les constitutionnalistes sénégalais, dont les plus éminents, et des constitutionnalistes français, c'est de donner leur conclusion par une lettre adressée au président de la République, en lui disant « L'avis de tous ces constitutionnalistes est unanime. Au terme de la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui, vous n'avez droit qu'à deux mandats, vous ne pouvez pas solliciter un troisième mandat. Donc votre candidature à la prochaine élection présidentielle est irrecevable, elle est anticonstitutionnelle. » Cela étant bien campé, je n'oublie pas que le président de la République a l'initiative des lois. Donc il a la possibilité de modifier la Constitution telle qu'elle est. Il l'a d'ailleurs tenté et ça a échoué. Et dans le cadre de cette possibilité de modifier la Constitution existante, j'avais dit qu'il pouvait la modifier dans deux directions. Une direction pour dire la réforme portant prolongation du mandat à 7 ans au lieu de 5 s'applique à mon mandat en cours, ce qui aurait amené l'élection à 2014, ou bien la levée pure et simple de la limitation du nombre de mandats à 2, ce qui aurait clos le débat au plan constitutionnel et juridique de la non-validité de sa candidature. Il n'a fait ni l'un ni l'autre. Sa tentative de révision a été plutôt orientée vers la mise en place d'un mécanisme de dévolution monarchique du pouvoir que le peuple a vigoureusement rejeté le 23 juin.
Mais est-ce qu'en proposant le fait qu'on puisse pousser le mandat jusqu'à 2014, n'a pas accrété dans la tête de certains Sénégalais que vous étiez à l'intelligence avec Abdoulaye Wade?
Absolument pas. Maintenant, les gens sont libres d'interpréter. Vous savez, moi, j'assume tous mes choix. Contre l'avis de mes plus proches collaborateurs et contre l'avis de la plupart des Sénégalais, je suis allé répondre à l'appel de Abdoulaye Wade pour mon retour au Parti démocratique sénégalais, ce qui m'a valu une incompréhension et des critiques très virulentes, mais je l'ai assumé.
La tortuosité.
Voilà. Je reviens à la tortuosité, puisque ça n'a strictement rien de tortueux, ce que j'ai fait. Au contraire, ce que j'ai fait traduit une constance absolue dans mon choix d'appartenir à la famille libérale. Mais, pour terminer, donc j'assume tous mes choix. Dans le cadre de cet exercice, je disais simplement, la Constitution telle qu'elle est aujourd'hui interdit formellement au président de la République de se présenter à la prochaine élection. Mmh. Mais le président de la République a l'initiative de la loi et a la possibilité de la modifier. C'est tout. Et s'il pouvait la modifier, il pouvait la modifier dans le sens de s'appliquer le mandat de 7 ans dès aujourd'hui ou dans le sens de lever la contrainte sur la limitation.
Est-ce que la fréquente audience entre vous et Abdoulaye Wade ne vous a pas affaibli aux yeux de beaucoup de Sénégalais?
J'espère que non, parce que mon but était très simple. Ça m'aurait affaibli si les Sénégalais avaient découvert que j'y étais retourné pour négocier des postes, pour occuper des postes ou pour autre chose. Mais tout ce que nous vivons aujourd'hui, je l'ai dit, moi je n'ai pas attendu de sortir du PDS ou de sortir du pouvoir pour défendre mes positions. Vous vous souvenez qu'en pleine déclaration de politique générale, interpellé par l'opposition, j'ai refusé de cautionner les délais que le président de la République avait annoncés pour ses grands travaux. C'est en tant que membre du comité directeur du PDS que j'ai écrit à Abdoulaye Wade, que je suis allé le trouver dans son palais de la République pour lui dire que la Constitution lui interdisait d'être candidat. C'est en tant que membre du PDS que j'ai condamné la loi Aizan, que j'ai condamné toutes les dérives. Mais mon appartenance à la famille libérale, je l'ai revendiquée de façon permanente. La tortuosité, qui est un concept que j'ai inventé et que j'ai appliqué à un autre acteur politique, n'a rien à voir. Ce que j'ai reproché à cet acteur politique, c'est de sortir d'une audience avec le président Diouf et de dire « je lui ai demandé de partir ». Puisque c'est l'intérêt du
Monsieur
pays.
Diboka, l'allusion est claire.
Je lui ai demandé de partir au président Diouf. Le lendemain ou le surlendemain, j'appelle à voter pour lui. L'expression de deux positions politiques majeures totalement opposées et contradictoires en 24 heures, c'est ça que j'avais qualifié de tortuosité. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est de dire de façon permanente, indépendamment des souffrances qu'on m'a fait subir, indépendamment des agressions qui m'ont été adressées, indépendamment de la météorologie politique où le PDS est rejeté par l'opinion, j'ai toujours, de façon constante, immuable, déclaré mon appartenance à la famille libérale.
Justement, monsieur le Premier ministre...
Ça, c'est de la constance. Ce n'est pas de la tortuosité. Vous en convenez?
Si vous le permettez, monsieur le Premier ministre...
Est-ce que vous en convenez?
Si vous le permettez, monsieur le Premier ministre...
Les auditeurs et les acteurs apprécieront.
Vous parlez souvent de famille libérale.
Tout à fait.
Est-ce que vous pensez que le mot famille a encore un sens dans un parti où on a assisté à une chasse aux sorcières,
non,
où il y a eu beaucoup d'allers-retours, etc.?
Oui.
Est-ce que le terme famille libérale est toujours un terme adéquat? Est-ce que vous avez une famille?
L'utilisation du terme famille libérale et non du terme PDS a un sens. Aujourd'hui, je suis exclu du PDS, j'en ai pris acte, je n'appartiens pas à ce parti-là. Quand j'utilise la notion de famille libérale, oui, cela a un sens. Puisque je l'ai défini le 4 avril 2006 dans ma déclaration de candidature, je l'ai défini en disant que c'était au sens des hommes et des femmes qui y partagent mes valeurs et qui y sont majoritaires, qu'ils soient manifestés ou cachés. La famille libérale signifie cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est deux choses fondamentales, mon libéralisme. La première, c'est que chaque individu est investi d'une dignité, d'un honneur et d'un ensemble de droits et libertés dont la protection et la défense méritent qu'on sacrifie même sa vie. La deuxième valeur, c'est chaque individu est un réservoir de talents, de capacités, dont l'éclosion ne doit pas être entravée, surtout pas par l'État ou par des mesures administratives. La liberté d'entreprendre. Voilà les deux valeurs auxquelles je suis attaché.
Alors,
et c'est ça mon libéralisme.
Monsieur le Premier ministre, nonobstant le retrait du projet de loi portant réforme constitutionnelle, un ticket président-vice-président en 2012, nonobstant le débat sur la validité de sa candidature, le président Wade a dit le jeudi 14 qu'il sera dans tous les cas vainqueur, même en cas d'élection présidentielle anticipée si l'opposition en fait la demande. Qu'est-ce que vous répondez à ces propos?
Que pour être vainqueur, il faut participer à la compétition. La Constitution lui interdit d'être candidat. Donc il ne peut pas être vainqueur, il ne peut pas être joueur.
Il dit qu'il est candidat.
Ça, c'est déshonorer son serment, c'est ce que je dis. Et à partir du moment où lui-même dit qu'il ne faut accorder aucun crédit à ce qu'il dit, puisqu'il peut se dédire, je ne désespère pas que sur cette question fondamentale de respect de la Constitution, l'ensemble des pressions de toute nature qui vont s'exercer sur lui vont le conduire à respecter la Constitution.
Pensez qu'il est sensible à la pression?
Oui.
Comment?
Parce que sinon, le 23 juin, il n'aurait pas retiré la loi.
Êtes-vous partant pour une élection présidentielle anticipée?
Non.
Pourquoi?
Moi, ce que je veux, c'est le respect de la Constitution, le respect du calendrier républicain, l'organisation d'élections à date due, à date échue, dans la sérénité et en prenant toutes les dispositions pour que l'organisation des élections ne soit entachée d'aucune irrégularité. Vous savez, cette idée d'élection anticipée à 6 mois de l'échéance, nous sommes en juillet, nous allons avoir 3 mois d'hivernage. Vous ne pensez pas aux paysans? Vous allez leur dire, laissez tomber les champs, n'allez pas cultiver, n'allez pas vous occuper de ce qui va nourrir vos familles, venez faire des élections. C'est irresponsable. Ce qu'on demande au président, c'est simplement de respecter son serment, de respecter la Constitution. Et cela inclut de respecter le calendrier républicain.
Sur le ticket présidentiel, il a dit qu'il n'a pas été bien compris. Et il a donné 3 arguments. Les 25% en faisant référence à Senghor qu'il a instauré. Il a aussi dit que le projet de dévolution monarchique devait être écarté définitivement. Et puis le troisième point, c'est que le vice-président devait être élu et non nommé. Est-ce que ce n'est pas des arguments défendables?
Le président de la République, à travers ce projet de loi, a fait 3 aveux. 3 aveux de taille. Il a dit, 1, adjoignez-moi quelqu'un, puisque je ne suis plus sûr d'être en état de tenir le gouvernail tout seul. Mes forces ne le permettent plus. C'est ça le ticket. Si on passe de l'élection d'un président à l'élection d'un ticket, dans sa situation à lui, c'est un appel de détresse en disant « adjoignez-moi quelqu'un ». Premier aveu de taille. Deuxième aveu de taille, il sait et il a évalué techniquement ses chances électorales à 25% des votants ou même moins. Cela n'a rien à voir avec le quart bloquant sous Senghor. Le quart bloquant antérieur était un renforcement de la sécurité, de la représentativité de l'électorat qui porte son choix sur le président de la République. L'ancienne loi disait il faut être élu à 51% des suffrages valablement exprimés, mais à condition que ces 51% soit supérieur ou égaux à 25% des inscrits. Les inscrits ne sont pas les votants. Les inscrits, c'est l'ensemble des électeurs inscrits sur la liste électorale qui peuvent donc choisir d'aller voter ou pas, l'abstention aidant. Mais les suffrages exprimés, ce sont les Sénégalais qui se sont effectivement déplacés le dimanche pour aller dire leur choix. Donc l'ancien système, ajouté à la nécessité de gagner à 51% des suffrages exprimés, le fait que ce soit au moins 25% des inscrits qui l'aient dit. Tandis que là, dans la loi de Wade, c'est on peut gagner au premier tour en étant choisi par 25% des suffrages exprimés des votants. Comment peut-on espérer diriger un pays en ayant 3 Sénégalais sur 4 contre soi? Le troisième aveu de taille qu'il fait, c'est de dire ce n'est même pas sûr que j'arrive à l'élection. Puisqu'il a introduit dans cette loi la possibilité qu'après le dépôt de candidature, l'un des colistiers se rende indisponible ou soit indisponible et que l'autre complète la liste.
Qu'est-ce que vous insinuez?
Je n'insinue rien. Je dis simplement que le président de la République, j'ai le privilège de bien le connaître. Je l'ai pratiqué pendant trop longtemps. et il ne fait rien au hasard. Si la dévolution monarchique était pour lui un sujet éteint, il lui aurait suffi d'introduire une phrase dans le projet de loi. Une.
Laquelle?
C'est de dire le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir à la même famille. Ça aurait réglé le problème. S'il avait ajouté une phrase disant le président et le vice-président ne peuvent pas être père et fils, ne peuvent pas être de la même famille.
Mais vous pensez qu'il maintient toujours la dévolution monarchique du pouvoir?
Qu'il lui restera un souffle de vie et un milligramme de pouvoir, il n'abandonnera pas cette idée. Il n'y renoncera pas.
En même temps, il est candidat. Il dit en 2012, non, il sera
il
candidat.
Il ne peut pas être candidat. Arrêtez de me dire « il dit ». Il vous a dit que quand il dit, il se dédie. N'accordez pas trop de crédit à ce qu'il dit. Il ne peut pas être candidat puisque la Constitution le lui interdit.
Si le Conseil valide sa candidature quand même, quelle sera la situation dans laquelle nous pouvons...
C'est une hypothèse impossible.
Pourquoi?
Parce que c'est anticonstitutionnel et les membres du Conseil constitutionnel connaissent le droit.
Maintenant, prenons une autre hypothèse, monsieur le Premier ministre, celle qui consisterait à voir le président de la République d'une manière ou d'une autre, être dans l'impossibilité de se présenter à la prochaine présidentielle. Vous êtes un candidat déclaré à sa succession. Et vous ne cachez pas votre intérêt pour le Parti démocratique sénégalais, dont vous vous réclamez à tort ou à raison, comme étant l'actionnaire majoritaire. Est-ce que vous pensez, compte tenu de votre passé récent, dans un parti où vous avez été exclu, où vous avez eu aussi à faire face à une forte adversité, que le PDS, comme un seul homme, va se mettre en rang derrière vous?
Tout à fait.
Sur quoi vous fondez-vous?
Mais sur la réalité de mes contacts quotidiens avec les militants et les responsables du PDS.
Donc
je vous ai dit la dernière fois, vous savez, le PDS et moi, c'est 25 ans de travail, de compagnonnage, de lutte, de connaissance. Voilà.
Et il veut voir les soirs, vous parlez.
Pas seulement les soirs, même en plein jour. Des parlementaires, des responsables, on se parle au téléphone.
Qui sont-ils?
Parce que, non, mais je ne vous le dirai pas. Puisque, vous savez, la chose est simple. Vous avez parlé de mon exclusion du PDS. Un parlementaire PDS m'a dit... Mais le comité directeur qui vous a exclu, le PDS y est minoritaire. C'est un comité directeur de Génération du Concret et de Transhumant. Donc, les gens qui sont dans le PDS, qui partagent les valeurs que je défends, puisque moi je dis de façon très claire, et je l'ai exprimé et c'est repris par la presse, je défends les intérêts du Sénégal, je ne défends pas les intérêts d'une famille ou d'un clan.
Les transhumants, il y a des vaches, c'est vrai, qui sont dans le décor. C'est vous qui les avez appelés aussi quelque part.
Écoutez, soyons très clairs sur ce sujet. Nous sommes arrivés au pouvoir en 2000. Au premier tour de l'élection présidentielle, notre candidat, soutenu par la CA 2000, incluant Landing, Batchili et Dansoko, a obtenu 30,2%. Au deuxième tour, nous avons fait le fal. C'est Abdoulaye Batchili et moi-même qui étions allés négocier avec Moustapha Niass sa jonction à nos forces. Et avant-hier, à l'aéroport, j'ai croisé Madjaïna Diouf qui me disait « Mais pourquoi ne pas envisager de reprendre nos discussions d'alors ?» Et on en a ri. Et nous avons eu la majorité au deuxième tour. Naturellement, un an après, nous devions aller aux élections législatives. Ma première idée que j'ai suggérée au président était de dire il faut consolider ce fal, puisque c'est 58%, pour avoir une majorité stable. Et je suis allé faire la proposition à Moustapha Niass de venir dans notre parti, de constituer une majorité, et il a dit non. Donc il fallait nécessairement un complément de 20% pour arriver à une majorité législative, sinon le président n'aurait pas gouverné. Et il fallait les trouver quelque part, dans le Sénégal, des profondeurs, dans les 42% qu'avait laissé le président Diouf certainement, mais dans le Sénégal. C'était une invitation à toutes les compétences sénégalaises, à tous les talents sénégalais, qui pouvait venir compléter la majorité présidentielle pour qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale stable. Voilà ma démarche que j'assume. Mais cela n'a jamais signifié que les compagnons qui se sont battus corps et âme avec leur personne et leur bien avant la victoire devaient perdre les premiers rangs au profit de ceux qui nous ont rejoints, même s'il fallait leur faire la place. C'est là qu'il y a une différence d'approche entre Abdoulaye Wade et moi. Les premiers rangs appartiennent à ceux qui se sont battus par leur personne et leur bien avant la victoire.
Justement, monsieur le Premier ministre, jusqu'à un passé récent, c'était lui et vous, pour faire faire appel à une référence que vous connaissez bien.
Voilà.
Mais entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Vous étiez un peu seul dans votre face-à-face avec lui. C'était très valorisant pour vous. Mais entre-temps, il y a l'émergence d'autres fils rebelles, notamment Macky Sall qui est parti. Il y a l'ancien ministre des Affaires étrangères, même si lui, il n'appartenait pas au PDS, qui est parti. Il y a votre sœur Aminata Tall qui est partie. On assiste à l'émergence de plusieurs candidatures dites indépendantes. N'avez-vous pas l'impression que la compétition va être un peu plus rude pour vous, qui n'avez jamais caché votre ambition de lui succéder?
Vous savez, vous faites bien de le rappeler. Lorsque j'ai indiqué que l'agression dont j'étais l'objet, le plus gigantesque complot de l'histoire politique du Sénégal, où on m'a accusé de tout, et où ceux que vous citez là étaient à côté de Wade dans ce combat, et y ont joué un rôle non négligeable. Vous vous souvenez de ceux qui ont convoqué les ambassadeurs pour parler d'un rapport, etc., etc. Je ne leur en veux pas. C'est parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui était en cours. Ils pouvaient peut-être même imaginer qu'ils pourraient en bénéficier en prenant ma place. C'était une erreur, puisqu'il n'y avait qu'une seule personne qui aurait pu conduire Abdoulaye Wade à s'attaquer à moi. C'est personne d'autre que son fils biologique. Donc quand je parlais de la volonté de tuer le fils d'emprunt pour mettre le fils biologique, j'étais un peu seul dans ce combat, dans le combat de la dévolution monarchique du pouvoir. Les gens ont pu dire, ah non, peut-être qu'il y a des problèmes de chantier de caisse, effectivement, ou d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous vous souvenez, avant ça, les gens avaient théorisé le coup d'État debout, le coup d'État
rampant,
etc. Et qui avait théorisé ça? Il est aujourd'hui un des collaborateurs de l'un de ceux que vous citez.
Mahmoud Saleh.
Vous le citez. J'évite de dire des noms. Mais, en tout état de cause, lorsque la même logique les a atteints et les a frappés et les a obligés à sortir, je leur ai dit, ne faites surtout pas l'erreur d'abandonner la maison. Restez dans la famille libérale. C'est à l'intérieur qu'il faut se battre. Il ne faut pas dire on m'a chassé, donc je vais combattre. D'ailleurs, l'argument contre eux, c'est quoi? Tant que vous étiez dans le système, vous la fermiez. Maintenant qu'on vous a chassé, vous parlez. Il faut éviter ça. Moi, quand j'étais à l'intérieur, je parlais.
Comment reconstituer cette famille libérale quand il y a ces ambitions qui s'expriment, Macky Sall, Aminata Tall, Chatidiane Gadio, et quand la rancune n'est pas jetée à la rivière?
Moi, ma responsabilité, c'est de rassembler pour gagner et de rassembler pour gouverner. Voilà l'axe dont je ne sors pas. Rassembler la famille libérale pour gagner, rassembler le pays pour gouverner. Vous m'avez entendu sur les ondes de RFI dire que je ne laisserai aucun talent d'aucun fils du Sénégal échapper au Sénégal. Tout ce qui peut bénéficier au Sénégal devra être mobilisé. J'ai évoqué les talents de grands diplomates de Moustapha Niasse. J'ai évoqué les relations en Afrique avec des chefs d'État, que le long combat de gauche accorde à un Landing, à un Bathily, à un Dansoko. J'ai évoqué la capacité d'influence de Ousmane Tanordien à l'international.
Mais qui sera numéro un? Vous, parce que vous pensez être né pour être président?
Non. Je vais répondre après que j'ai fini. Rassemblez donc pour gagner. Rassembler pour gouverner. Tous les talents du Sénégal, la situation est telle que seul un vaste rassemblement permettra de gagner. Et je discute dans cette direction. Maintenant, vous revenez sur cette expression que beaucoup ont repris en cœur disant que j'ai déclaré que je suis né pour être président. Je n'ai jamais rien déclaré de tel.
C'est pas des wakwakhets là aussi?
Non, pas du tout. Les gens ont dit qu'ils ont vu dans mon site internet un article disant ça. C'est faux. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, un journal de Princeton qui s'appelle The Princeton Packet, le 17 mai 1996, a reçu une dame du nom de Elizabeth Speer qui a accordé une interview où elle a déclaré ceci: Idrissa will someday be president. Idrissa will become president of Senegal so young and retire so soon. I believe he will have a second career as elder statesman uniting the nations of Africa by 2040. Voilà ce qui a été posté.
Traduit en français,
Je vous laisse la traduction. Mais en tout cas,
c'est cette interview dans le Princeton Packet
qui dit Idrissa Seck sera un jour président. Voilà ce que Mme Elizabeth Speer, le 17 mai 1996, dans un journal de Princeton qui s'appelle The Princeton Packet, a dit. Et elle a dit, il sera président jeune, il se retirera suffisamment tôt et entamera une seconde carrière comme homme d'État confirmé au service de l'unification des nations africaines avant l'année 2040.
Et vous pensez que cette prédiction va se réaliser?
Je prie pour, et j'espère que vous priez aussi à mes côtés.
Si on revient un peu à la force du PDS, vous disiez tantôt que Abdoulaye Wade a mis les 25% parce qu'il savait qu'il ne peut pas les avoir. Aujourd'hui, il y a 11 ans de gouvernance, avec tout ce qui s'est passé, la famille libérale est divisée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous appuyez sur la famille libérale, vous pouvez gagner?
Non, mais je ne m'appuie pas exclusivement sur la famille libérale. Je vous ai dit que je souhaite rassembler. Pour gagner, il faut rassembler au maximum. Donc, je suis dans le processus de rassemblement. Je suis dans les discussions.
Avec qui?
Vous verrez. Vous le verrez. Je discute avec tout le monde. Puisque je prépare les deux choses à la fois. Rassembler pour gagner et rassembler pour gouverner. Je l'ai commencé depuis longtemps. Souvenez-vous, en 2000, je disais, attention, il ne faut pas que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire nous arrive. Je suis allé, moi, en Côte d'Ivoire pendant la crise, en tant que ministre d'État, directeur de cabinet, parler aux leaders ivoiriens. Et à l'époque, je leur disais, vous êtes 5 ou 4, chacun a à peu près un quart ou moins, 20% de l'électorat. On ne gouverne pas un pays avec ça. Vous êtes obligés de vous mettre ensemble. 2 à 2, 3 à 3, ou je ne sais pas comment vous allez faire, mais vous êtes obligés de vous mettre ensemble. C'est ce qu'ils ont fait avec cette union des oufouettistes, mais ils l'ont fait après 10 ans de guerre, de destruction, de catastrophe. On ne doit pas arriver à ça ici. Nous devons avoir l'intelligence et la sagesse de dire que notre responsabilité première, c'est de garantir la stabilité du pays. Donc nous devons nous rassembler.
Mais comment rassembler au moment où chacun d'entre eux est aussi ambitieux que vous?
Aucun souci. Moi, je crois en la démocratie sénégalaise. Je crois en la sagesse du peuple sénégalais. Contrairement à Wade qui s'imagine que c'est son rôle de se choisir un successeur, moi je crois qu'à tout moment de son histoire, le peuple sénégalais, les 13 millions de Sénégalais, ont la sagesse et la capacité de se choisir une équipe dirigeante de qualité. Donc laissons la compétition se dérouler. Faisons confiance aux Sénégalais sur leur capacité à choisir un président de la République. C'est pour ça que je condamne et rejette l'idée d'un président de transition promu par une certaine opposition, parce que je considère que c'est coûteux et c'est de l'instabilité aussi additionnelle. Mais pendant la phase
concrètement, vous allez vous appuyer sur quelle plateforme? Vous êtes exclu du PDS, vous n'avez plus votre Réumi, vous vous appuyez sur quoi?
Non,
Réumi, je l'ai toujours. Si le Réumi disparaît, le pays disparaît.
Non, non, votre Réumi, à vous.
Notre Réumi.
Qui n'a pas encore suffisé.
Notre Réumi. Oui, non. Nous allons nous organiser pour nous doter d'un cadre légal qui va accueillir l'ensemble des personnes qui supporteront ma candidature. Ne vous inquiétez pas à ce sujet. Le moment venu, vous en serez informé. Mais nous prenons le temps de travailler.
Idrissa Seck, n'avez-vous pas l'impression d'être en session de rattrapage de l'histoire qui s'est accélérée fortement avec la naissance du mouvement du 23 juin?
Et du mouvement Yanamar aussi.
Mais pas du tout. Ce sont ces mouvements qui m'ont rattrapé et qui m'ont rejoint dans mon combat. Ce n'est pas l'inverse. Mais vous êtes là pour en témoigner, ne dites pas « ah bon » et ne faites pas le surpris. Qui a été le premier à combattre et à payer le plus lourd tribut cette dévolution monarchique du pouvoir? Qui a écrit à Wade pour lui dire qu'il ne peut pas être candidat? Qui est allé dans son bureau le lui dire? Qui a écrit dans un communiqué du 1er juin, avant le 23 juin, que Wade, sa présence était devenue un danger et une calamité pour les populations et que je travaillais exclusivement à son départ? Mais quand je disais ça, il n'y avait pas eu encore le 23 juin.
Oui, tout ça est bien beau, mais vous n'étiez pas sur le terrain le jour du 23 juin. On ne vous a pas vu du côté des manifestants, on n'a pas vu vos partisans de manière active.
Non, vous avez vu des militants se réclamant de moi parmi les manifestants. Ça, il ne faut pas le nier. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à récupérer ce mouvement. C'est un mouvement populaire, spontané. Ce n'est pas le fait d'un parti politique. C'est un mouvement du peuple. Et moi, je continue encore aujourd'hui de souhaiter que le peuple ne soit pas brûlé, que le peuple ne soit pas réduit en cendres, que le pays, puisque nous n'aurons pas les moyens de reconstruire si nous détruisons le peu que nous avons. Nous devons, avec responsabilité, exercer une pression suffisamment forte sur le président de la République pour l'amener à honorer ses engagements.
Autrement dit,
et à respecter la Constitution.
Autrement dit, vous condamnez les émeutes du 25 juin contre...
Pas.
Excusez-moi, je termine la question.
Oui.
Émeute qui aurait amené Karim Wade à appeler son ami Robert Bourgi, que vous connaissez très bien, qui vous a dit qu'il vous a rencontré. Karim Wade lui-même a fait une lettre ouverte aux Sénégalais. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation?
Oui, moi, je préfère parler des acteurs politiques. Je ne parle pas de quelqu'un qui représente que lui-même ou sa famille. Je préfère parler des acteurs politiques qui ont des suffrages, qui ont gagné des choses, qui sont députés, qui sont maires, qui sont... etc. Mais
Il est quand même conseiller municipal, Karim Wade, si on parle de lui.
Bon, je préfère ne pas parler de lui, pour être extrêmement, extrêmement clair. En tout état de cause, l'appel à des forces étrangères pour stabiliser la situation du Sénégal, s'il a eu lieu, est d'une extrême gravité.
S'il a eu lieu, vous en doutez?
D'abord parce que je n'ai pas de raison d'en douter. Hein. Vous l'avez dit, je connais bien monsieur Robert Bourgi.
Quelles sont vos relations, monsieur le Premier ministre?
A priori, je ne lui connais pas de légèreté dans la gestion de ces questions sensibles, parce qu'il a bien conscience de ses devoirs de ce point de vue-là. Mais, en tout cas, un tel appel non seulement offense nos vaillantes forces de sécurité nationale, mais outrepasse les prérogatives de celui qui l'aurait lancé. Et c'est d'une extrême gravité. Maintenant, sur le reste...
Je reviens à la charge, monsieur le Premier ministre, parce que Robert Bourgi s'est invité de manière un peu intempestive dans le débat politique au Sénégal. Quelles sont vos relations avec Robert Bourgi?
Non, qu'est-ce qu'il a dit? Des relations normales de quelqu'un qui joue un rôle et que je connais.
Qu'il vous a rencontré par trois fois ces
derniers temps. Oui, il m'a rencontré pour discuter de l'Afrique, pour discuter du Sénégal, pour discuter de la politique française.
Jamais d'un ticket. De son fils,
non,
d'un ticket.
Non, jamais. De façon extrêmement formelle, je l'ai dit, et lui-même l'a dit, et l'ambassadeur de France au Sénégal l'a dit, il n'a jamais été question à aucun moment de discussion de tickets à Paris. À aucun moment. Mais comment voulez-vous que je puisse vous regarder, vous Mamoudou, vous Alassane, comment voulez-vous que je puisse regarder le peuple sénégalais en face en leur disant, celui-là ne peut pas être candidat, mais je fais un ticket avec lui. Mais j'aurais ruiné toute ma crédibilité. J'aurais été disqualifié pour faire de la politique au Sénégal. Mais quand même, prêtez-moi un minimum de bon sens. Ça n'a absolument aucun sens. Aucun.
Oui. Monsieur le Premier ministre, malgré votre parcours, la politique que vous avez fait, vous étiez deuxième en 2000 à 2007, l'histoire de Saint-Gilles-de-Thiès reste encore comme un boulet dans votre politique. Les gens parlent tout le temps de ça, ils reviennent sur cette question-là. Oui. Est-ce que vous pouvez donner un éclairage sur cette question aux Sénégalais?
Encore?
Encore.
Vous avez besoin d'éclairage.
Continuez à parler encore de ça.
Non. Je pense que personne de sérieux et de crédible n'en parle.
Il faut en parler parce que ça, oui, ça a ruiné quelqu'un, oui, un entrepreneur sénégalais, du nom de Baratta.
Absolument. De ce point de vue, ça fait partie des dégâts collatéraux du complot d'État qui a été organisé contre moi. Il y avait un seul objectif, détruire le fils d'emprunt pour installer le fils biologique. Il n'y a aucun autre motif.
Mais comment pouvez-vous expliquer cela avec Abdoulaye Wade, avec tout ce que vous avez vécu, qui décide de vous détruire comme ça, 30 ans de compagnonnage?
Vous savez, dans nos familles africaines, quand vous avez un neveu qui grandit avec vous, à qui vous confiez tout, et un beau jour, votre fils veut sa place, vous ne vous en séparez pas comme ça facilement. Ça vous gêne. Vous êtes obligé de donner des raisons extrêmement graves pour le faire. Sinon, vous passez pour un traître au regard de la culture. C'est ça qui s'est passé. C'est tout. Et ça, je l'ai dit à Macky Sall, dont on a parlé tout à l'heure. Aucun d'entre vous ne vaut que Ward Matak. Il y en a un qui a pu le causer. Il n'y en a pas deux.
C'est qui?
Le fils biologique. C'est tout. Ce n'est que pour lui qu'il a pu faire ça. Père, il l'a fait. Mais au fin de l'installer, vous l'avez vu, non? Quel est le débat aujourd'hui? C'est la dévolution monarchique du pouvoir. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute à ça? Maintenant, sur le dossier lui-même, qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Je ne peux ajouter que ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Le jour même de l'accusation, le 13 juillet 2005. J'ai dit, d'ici à l'extinction du soleil, aucun centime détourné ne peut m'être imputé. Tout ce que je possède a une origine propre et licite.
Justement,
vous voulez que j'ajoute quoi?
Justement, à propos de votre fortune, il y a des gens qui s'interrogent sur votre train de vie. Disent que Idrissa, même hors du gouvernement, continue d'avoir un train de vie assez dispendieux. D'où vous vient votre fortune?
Parce que Idrissa travaille depuis sa première année de classe préparatoire HEC. La première entreprise que j'ai créée date de ce moment-là.
Qu'est-ce que vous faites précisément?
En 81.
Quelles sont vos activités?
Non, attendez, ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans. Une longue carrière. Ça fait 15 ans d'audit chez Pricewaterhouse. J'ai créé des entreprises, j'ai créé ACG. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai de quoi vivre. Mais de façon propre et licite.
C'est quoi?
Maintenant, les accusations, les contre-vérités, les calomnies, ça, je laisse ça aux calomniateurs et aux diffamateurs.
C'est quoi votre travail?
Je n'y réponds pas.
Justement, en parlant de calomniateurs et diffamateurs...
Je travaille sur le Sénégal.
Oui, on retrouve quelque chose qui est très frappant dans votre style, calomniateur, diffamateur. Ça fait référence au Coran. Oui. Moi, j'ai remarqué, j'ai été fortement interpellé par une chose. Mm-hmm. Depuis le début de cette conversation, vous n'avez pas parlé de Sourate, alors que c'était une de vos marques de fabrique.
C'est parce que peut-être vous ne connaissez pas le Coran. Mais j'en ai cité plusieurs.
Non, mais pas de manière intempestive comme vous le faisiez.
Je vais vous en citer un.
Voilà.
Lorsque vous parvient une information venant d'un pervers, vérifiez-la. avant d'offenser un honnête individu et de finir par le regretter.
Justement, le président Wade. Justement, le président Wade, si vous permettez, le président Wade, à côté des chantiers de Thiès, le président Wade a eu à dire que vous avez pris 40 milliards que vous avez planqué à l'étranger dans un compte trust. Il y a même un ministre de la République qui a dit que le président, un jour, leur a montré un papier disant que c'est Idriss Seck qui a pris 40 milliards. Qu'est-ce que vous répondez ?
Écoutez, le respect dû à son âge et à sa fonction m'interdit d'utiliser le mot approprié pour qualifier de tels propos qui sont indignes d'un chef d'État. C'est une calomnie, c'est de la diffamation. C'est faux. D'ailleurs, il avait ajouté qu'il allait écrire au président Bush pour lui demander cet argent. Où est la lettre et où est la réponse ? Mais ne me posez pas la question à moi, posez-lui la question à lui. Un chef d'État n'accuse pas en l'air. Il a la garde de ses deniers. Si j'avais pris 40 milliards et qu'il sait que c'est dans un compte trust aux États-Unis, ben il prend le compte trust et il exige immédiatement que ce soit bloqué et rendu au trésor public. Pourquoi il se contente de parler ?
Il ne s'est pas contenté de parler, monsieur le Premier ministre. Il avait brandi ce qu'on avait appelé le fameux protocole de Rebus.
C'est un fou. Une notaire a été radiée avant d'être réinstallée sur la base de ce fou. C'est ce que je dis. Quand un complot a cours, on peut fabriquer ce coup.
Mais... Oui. Monsieur le Premier ministre, souvent on entend Blaise Wade, le président Blaise Wade dans les interviews des radios internationales dire qu'en Afrique, il faut qu'on puisse aider les présidents à partir. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition dans laquelle vous êtes est prête à lui donner des garanties pour qu'il puisse partir? Parce qu'apparemment, qu'il parle de démolition menace du pouvoir, il se peut qu'il ait besoin des garanties pour son fils.
Non. Toutes les garanties dues aux anciens chefs d'État, il doit être honoré. Je vous l'ai dit, ce que je lui souhaite, c'est une sortie honorable.
Et son fils?
C'est autre chose. Ne mélangeons pas.
Vous allez le poursuivre?
Ne mélangeons pas. C'est autre chose. Le président de la République mérite des égards. Et en tout cas, il ne faut pas compter sur moi pour lui faire quelque mal que ce soit. J'ai dit que je lui souhaitais une sortie honorable et une mention honorable sur les langues de la postérité. Ce dont je rêvais pour lui, c'était le statut d'un Mandela en Afrique. Vous savez, Mandela, sa stature dépasse même celle d'un chef d'État en Afrique du Sud. C'est son image qui a valu à l'Afrique du Sud d'accueillir la première Coupe du Monde en terre africaine. C'est plus fort qu'un chef d'État. C'est ça que je voulais pour lui. Je ne voulais pas le voir finir comme ça, en chef de clan, faisant le guerrier, essayant de faire un troisième mandat
après
contre la
Constitution.
Mais ça me peine.
Vous pensez à quoi aujourd'hui? C'est que vous voulez partager ensemble.
C'est ça. Je suis peiné. Je suis peiné. Je suis peiné que des gens totalement irresponsables le poussent à ça.
D'où l'important de dialoguer avec lui, d'autant plus qu'il dit on peut discuter de tout.
Non.
Et peut-être y compris le fils.
Non. Je pense que ceux qui le poussent vers ça sont totalement irresponsables et ne l'aiment pas. Moi, quand je le vois dans cet état, à son âge, avec le parcours qu'il a eu, le combat qu'il a mené pour la démocratie, les privations qu'il a acceptées et endurées avec courage et constance pendant 26 ans de combat dans l'opposition pour arriver au pouvoir sans passer sur des cadavres, l'obliger à ce jeu-là, à cette petite querelle-là avec des petits-fils, c'est irresponsable. C'est ça qui me peine.
Mais
en tout état de cause, je n'ai fait que ça. Vous savez, nous avons eu des séances de discussion de 4 heures, 6 heures. Nous avons parlé dans tous les sens. Je lui ai dit, monsieur le président, je vous souhaite deux choses. Vous le savez. Je vous souhaite de réussir la mission que par la grâce de Dieu, les Sénégalais vous ont confiée. Je vous souhaite de bénéficier d'une mention honorable sur les langues de la postérité. Et tout acte ou propos compromissoire de ces deux objectifs verra ma farouche opposition, même si vous en êtes l'auteur. Lui dit ça dans son bureau. Je n'ai fait que ça.
Et qu'est-ce qu'il a dit?
Monsieur le Premier ministre, vous aimez beaucoup faire de la prospective, ce n'est pas un secret de politicien, enfin, c'est un secret de politicien plutôt, ou ce n'est pas une tare hein, en soi. Comment voyez-vous la suite des événements au Sénégal? Parce que le climat est assez incertain.
Où va-t-on? Le peuple sénégalais a suffisamment de ressources et suffisamment d'amis pour ne pas sombrer dans le chaos. Ma prière, mon pronostic, c'est que nous réussirons à dépasser cette crise. Mais il est possible que cette crise ne se résolve, comme dit Attali, qu'à son paroxysme. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est mobiliser toutes ses forces, toutes ses énergies pour exercer sur le président de la République des pressions beaucoup plus fortes que celles du clan qui veut le maintenir comme bouclier humain pour des intérêts inavoués, pour l'amener à respecter la Constitution.
Pensez-vous que des puissances occidentales, puisqu'elles ont parlé dernièrement, surtout d'eux, la France et les États-Unis, participent de ces pressions?
Bien évidemment, bien évidemment. J'ai dit que le Sénégal a suffisamment de ressources intérieures, d'autorité morale et religieuse, de force politique intelligente et organisée, et d'amis en Afrique et dans le monde pour nous éviter un chaos. Mais le président de la République lui-même a indiqué que sur le processus électoral, pour éviter l'impact désastreux sur ce processus du récent découpage administratif qui perturberait l'élection sur un pan important de notre territoire national et sur une population électorale très importante, que sur cette question, des discussions s'engagent avec des ambassadeurs de l'Union européenne pour trouver des solutions. Parce que ce découpage administratif annule les cartes d'électeurs existantes. Il faudra bien une solution. Soit on annule les décrets portant découpage administratif et le fichier électoral est maintenu tel quel, soit on s'engage dans un processus de modifier le fichier électoral, puisque ces cartes d'électeurs étant caduques, il faut les sortir du fichier et reloger ces mêmes électeurs dans leur circonscription nouvelle, réimprimer des cartes, leur distribuer ça, ce qui est dans les 6 mois une source massive de distorsion et de dysfonctionnement. Des ambassadeurs en discutent en ce moment.
Voilà,
les pressions doivent être de toute nature.
La fin de l'émission Le Grand Jury qui recevait M. Idrissa Seck avec, et si on en parlait, de TFM, Alassane Samba Diop, Barkaba et Mahmoud Ibrakan. Merci, bon dimanche.
Merci à vous, excellent dimanche.